Pétrarque part pour Montpellier afin d'y apprendre le droit. Il y demeure 4 ans. Le peu de progrès qu'il fait témoigne de sa répugnance pour ce genre d'études. La nature ne m'a pas donné de goût pour cette science, ce qu'on fait malgré elle est toujours mal fait. J'aime la solitude, je déteste le barreau. Il a alors 19 ans. Son père l'envoie quand même à Bologne. Il part avec Guido et son frère pour aller se perfectionner à l'université de cette ville. En réalité, il ne fait rien, c'est-à-dire qu'il se perfectionne de plus en plus dans ce qui l'attire. Ses maîtres eux-mêmes lui donnent l'exemple. Ils font autre chose que leur enseignement. L'un est le célèbre Cino de Pistoia, dont l'Alighieri cite les vers dans le traité de l'éloquence vulgaire. L'autre est Cecco, également poète, qui enseigne la philosophie et l'astrologie. Ce dernier avait des théories curieuses, mais le tort surtout d'être antipathique à Marie de Valois. Aussi fut-il happé par l'Inquisition et brûlé en 1327. Pétrarque fait une escapade à Venise. En 1326, son père meurt, les deux frères rentrent à Avignon. C'est à partir de ce temps que leur existence libre commence. Le fisc papal ne leur a pas laissé grand-chose, mais ils ont de bonnes figures. Les relations qu'ils savent se faire, François surtout, les colonels reçoivent comme leur enfant, les mettent à l'abri de l'adversité. L'étiquette dans cette cité fangeuse est tyrannique et meurtrière. Il faut de ces longs souliers dits à la Poulain qui serrent le pied comme dans un étau. Le moindre pli malencontreux exige que l'on change de vêtements, aussi n'ose-t-on pas bouger. La chevelure également est un tracas, chaque boucle doit être isolée et tordue et d'une certaine façon, et la nuit, ce chef-d'œuvre serré contre les tempes par un linge jusqu'au matin. Les chausses qui ne sont pas en maillot doivent être collantes à éclater. C'est ainsi qu'on doit paraître. Pétrarque s'en plaint beaucoup. Les macaronis étaient inconnus à cette époque en Italie, sans détriment essentiel. L'on y mangeait, comme maintenant, d'exquises choses agrestes et fines, de savoureux poissons bouillis saturés d'huile fruitée, des herbes tendres, des choux, des fèves, des petits poulets au goût fort et au pot bien grillé, des petits porcs bien tournés tenus longtemps au four, de la vache séchée au vent, de la chèvre séchée au vent marin, de la fine chair d'agneau aromatisée grillée dans les pierres selon l'art jamais perdu des sacrificateurs. Car il y a encore cette poésie. D'autres cuisines plus expertes la méconnaissent. La question d'ailleurs, en ce qui concerne Pétrarque et son frère, ne se pose pas. Ils étaient en Provence et de cette contrée, ils avaient adopté les habitudes. Là, nous avons des renseignements. L'on a représenté à tort Avignon et son monde dans une perpétuelle ripaille. L'ordinaire de la chambre apostolique était des plus simples. Il consistait en baleine qui venait par Quinto de La Rochelle, en hareng qui venait de Bordeaux, en merlu et un autre poisson salé nommé toige qui venait de Quimper. Les légumes étaient de la soupe en grande quantité et des fèves ou des pois chiches. Évidemment, et avec ses salaisons, tout ce monde buvait. C'est ici que se situent les invectives célèbres de Pétrarque contre le Bourgogne. Elles ne contribuent pas à rendre notre héros bien sympathique. Mais Pétrarque était âgé, le vin lui était contraire, et puis il y a, comme on va le voir, d'autres raisons. Des territoires de radeaux chargés de ce cordial roulaient vers Avignon où on savait le conserver et le boire. D'où la colère du poète, premièrement contre le Rhône, fleuve de bagnards, fleuve d'esclaves, donc indigne des louanges qu'on lui prodigue. Mais je sais, dit-il, pourquoi ils en parlent comme si c'était le fleuve du paradis. C'est qu'il leur rapporte tout ce Bourgogne, vinum benevense, qu'il considère comme le cinquième élément du monde. De fait, et parce qu'il n'y avait pas de vin de Beaune en Italie, les Français, et les autres aussi, je le présume, appréhendaient fort le retransfert à Rome de la cour pontificale. Lequel néanmoins s'effectua puisque sous Urbain V, le 19 mai 1367, une jolie flottille de galères vénitiennes, pisanes, génoises, napolitaines mit la voile à Marseille, emportant le pape et une partie des cardinaux, tandis qu'une autre tendait au même but par voie de terre. Les escales furent Toulon, Port-Olive, Albenga, Gênes, Porto Venere, Salsadas, Pise, Piombino. Le débarquement se fit à Corneto le 3 juin et en octobre seulement, après un séjour à Viterbe, le pontife et sa cour firent leur entrée à Rome. 3 ans ne s'étaient pas écoulés que la question d'un retour à Avignon se définissait impérieuse. Les cardinaux n'étaient pas contents, une foule de choses leur manquait, ce Bourgogne surtout, dont ils avaient pris la précaution de se faire précéder, mais qui n'arrivait pas. « Qu'il se rassure, clamait Pétrarque. Il ne les a pas précédés, mais il les suivra. Ils retrouveront assez partout où ils iront. Quelque chose d'ailleurs me dit qu'il est en route, et je m'en réjouis par Hercule, tant j'ai hâte que prennent fin ces jérémiades indécentes. Ce langage semble motivé par l'ascétisme chrétien, qu'on se détrompe. Il n'est que l'expression du chauvinisme. Cela est assez clair dans ce passage de la lettre à Urbain, cité par De Sade. Je leur ai entendu dire, à Avignon, quand il s'agissait de ce retour, qu'il n'y avait pas de vin de Beaune en Italie. Belle raison. Pour deux ou trois coteaux qui produisent du bon vin en France, il y en a 100 en Italie qui en produisent de meilleurs. Ainsi, les cardinaux se fussent-ils pochardés avec des vins romains ou des vins italiens, Pétrarque ne les eut pas désapprouvés. Tout ce scandale qu'il fait n'a que cette raison. Le pape était sobre et ascète. Aussi, Pétrarque a beau jeu pour mettre en avant des motifs qui n'en sont pas. « Ah, mais toi, lui crie-t-il de Venise, toi qui vis de pain et d'eau, et comme boisson de gala, ne connais que la piquette, montre-leur donc un peu ton indignation paternelle. » Puis il surenchérit, et, toujours sous l'empire de cette colère qu'anime le chauvinisme, il lance aux Bourgognes un blasphème que les générations n'oublieront pas. Il traite le plus auguste des crus de breuvage inconnu et sans lignage, quod scriptoribus rerum et veteribus et nois incognitum necuscam intervina nobilia numeratum. Cependant, il se rend compte que tout ce qu'il dit est inutile. Urbain V ne va pas se diminuer à chapitrer ses cardinaux sur cette question. De guerre las, Pétrarque avoue ses véritables motifs. Il accorde aux cardinaux leur vin, pourvu qu'ils ne parlent plus d'un retour à Avignon. Car si Beaune, dit-il, est le terme de ce regret, pourquoi parler d'Avignon qui en est encore à une certaine distance. Mais cette distance, pourquoi ne pas l'augmenter, puisque plus le vin a navigué, meilleur il est. Jamais appréciateur de vin ne fut assez fou pour aller habiter sous la vigne même. Le fruit pressé sous l'arbre ne produit que du sirop. C'est le transport, beaucoup de temps, les soins qui lui confèrent sa noblesse. Déjà, Avignon est à une certaine distance, dont le vin est meilleur que bu sur place. Mais combien ne le sera-t-il pas davantage si cette distance s'accroît d'autant de milles qu'il y en a encore jusqu'à Rome. Cela, évidemment, réclamera un surcroît de fatigue et de soins pour les marins, mais n'est-ce pas le sens de leur vie? Il faut suivre ce développement. Pétrarque est bien plus sympathique quand il démontre que quand il fulmine, car c'est encore par les voies habituelles, la scolastique qu'il détestait. Son argumentation est vive et imprévue, son ingéniosité est ravissante. Autrement, il ne vaut guère. Les vituperations contre le vin sciaient mal aux poètes. Même les Arabes s'en sont abstenus, elles ne concernent dans le cas présent qu'un Pétrarque sénile. Il y a lieu d'espérer qu'au temps d'Avignon, où les deux frères chantaient leurs dames, ils buvaient autre chose que de la piquette. Les modernes qui écrivent des livres sur Pétrarque voudraient pouvoir faire une part au Moyen-Âge, qui les excite, et admirer en même temps le restaurateur du cicéronianisme dans tout ce que l'officialité moderne en représente. L'éloquence, l'érudition, les grands sentiments, la morale en soi, pas la morale en vertu d'un dogme, le nationalisme, l'ironie, le scepticisme, le pompiérisme, mais ils savent que cela est antipathique, alors ils émettent on ne sait quelle sauce. Je ne veux pas être de ceci. M'étant au contraire proposé de parler librement, je m'appliquerai à désassocier et à mettre en face de lui-même le poète lyrique, rattaché encore à une école provençale qui est à l'origine de propulsions musicales, donc romane syrienne, puisque le plein chant est roman syrien, et le poète fabriqué à coups de plâtras à la manière antique. Or, c'est celui-là qui détruit l'autre, mais on fait semblant de les admirer ensemble, qui a le plus rendu Pétrarque célèbre. Le lyrisme roman, ou les arts plastiques romans, et aussi le contrepoint et l'architecture ogivale furent à la Renaissance et longtemps après, avec animosité, appelés barbares. Tomasini, auteur du Pétrarca Redivivus, rapporte ses témoignages. Audiatur hic vocius. Au grand Pétrarque, en premier lieu, nous sommes redevables d'avoir fait surgir du caveau des Goths les lettres depuis longtemps ensevelies. Scaliger dit la même chose, et aussi Vadian, le réformateur sangallois, dans sa poétique Franciscus Petrarca Ferre primus fuit qui barbaris castris bellum induxit. Or, on a avancé depuis, et nous ne nous souscrivons plus à ce jugement. Une séquence de Nocterre est mille fois plus belle qu'une églogue latine de Pétrarque. Le fait, néanmoins, de signaler un genre faux n'incrimine pas le modèle. Virgile et l'Antiquité sont hors de cause, et même une Renaissance, le principe d'une Renaissance, est concevable, puisque l'art carlovingien déjà en était une. Admettant alors qu'ait pu revivre une manière antique, je m'attache néanmoins à discriminer deux factures. L'une dionysienne, l'autre académique, socratique et discursive, ce qui n'a jamais été fait. Toujours on a cru que l'admiration ou la réprobation de la Renaissance entraînait celle de l'Antiquité, et l'on semble aussi ne jamais avoir compris que dans l'Antiquité, il y a un très fort élément sauvable, lequel existe aussi, mais en faible part, dans la Renaissance. En outre, j'essaie de comprendre en quoi le monde moderne provient de la Renaissance, ce qui est vrai, mais fort difficile à établir. Diceva Voltaire, che se il Petrarca non fosse stato innamorato, sarebbe molto meno famoso di quel che non sia ed aveva ragione. Voltaire disait que si Pétrarque n'avait pas été amoureux, il ne serait pas aussi célèbre qu'il a été, et il avait raison. C'est Bartoli qui rapporte ce propos sensé dans la préface de son édition des Rimes de l'Instituto Editoriale de Milan. Et en effet, à part l'expression « rimer son amour », le Pétrarque, essayiste et antiquaire, représente une littérature de second ordre. On préférera toujours les Mille et une nuits. Mais c'est un problème curieux, très fécond en explications, dont nous avons tous besoin sur un grand fait, qui est la Renaissance. Mais cet amour aussi est un grand fait, puisqu'il a encombré la polygraphie européenne et américaine. Je me dois d'y consacrer quelques pages. Disons d'abord, qui était Laure, cette femme, cette dame, qui par l'accès de ses rimes l'a tellement rendue célèbre? Car Pétrarque lui-même, pour des raisons que l'on comprend, n'a jamais cité son nom, ce qui a porté ses contemporains déjà à douter de son existence. L'évêque de Lombèse, Jacques Colonna, lui écrivait plaisamment que pour sa part, il n'en était pas dupe, que ce nom de Laure, il se l'était forgé pour résumer la force de ses élans et en produire une image à la renommée, bref qu'en somme, de Laure vivante, il n'y en avait point, et que toutes ses larmes, ses cris, ses soupirs ne s'adressaient qu'à un symbole, le laurier dont on couronne les poètes. « Plût au ciel, répond Pétrarque, qu'en plaisantant tu dises vrai, et que ma langueur ne fût que simulée. Ah, mais crois-moi, il faut un grand travail pour simuler ainsi longtemps. » Et le faire pour rien, juste pour paraître, serait la pire des folies. Considère en plus qu'étant bien portant, l'on peut, en copiant une attitude, imiter un malade. On n'imitera jamais sa pâleur. Or, cette pâleur, tu l'as vue. Et tu sais bien, toi, ce qui me ronge. Ah, tu peux exercer contre moi cette fine ironie socratique où tu es maître. Mais attends un peu que l'ulcère mûrisse, afin que s'applique mieux contre moi ce dit de Cicéron, les plaies viennent et s'en vont avec le temps. D'autres correspondants plus intimes et qui vivaient à Avignon ne doutaient pas que Laure ne fût en chair et en os puisqu'ils l'avaient sous les yeux. Tel est le néerlandais Louis, que Pétrarque appelait Socrate, et qui, alors que Pétrarque était en Italie, lui écrit pour l'engager à revenir. « Comment peux-tu vivre loin de cette Laure que tu aimes si tendrement et que ton absence afflige ?»« Je ne crois pas qu'il y ait lieu de douter de l'existence de Laure, d'autant plus que nous avons d'autres précisions. Nous savons qu'elle était avignonnaise, et qu'elle s'appelait De Sade, ayant été De Nove avant son mariage. Cette identification repose sur les faits suivants. Déjà, depuis plusieurs siècles, des recherches effectuées dans les archives de la famille De Sade, à Avignon, ont établi qu'une dame De Sade, qui s'appelait Laure, mère de 11 enfants, fut attaquée d'une maladie dangereuse, c'était la peste, le 3 avril 1348, et qu'elle envoya chercher Guillaume Jacobi, son notaire, et fit son testament. Elle mourut aussitôt ou à quelques jours de distance, puisque Hugues de Sade se remaria peu de temps après. Elle fut enterrée dans l'église des Cordeliers à Avignon, où les De Sade avaient leur sépulture. Or, une note de feuille de garde, trouvée dans le Virgile de Pétrarque, qui est actuellement à la bibliothèque ambroisienne, dit « Laure, notoire par sa vertu et longuement célébrée par mes poèmes, apparut à mes regards pour la première fois, au temps de ma toute première jeunesse, l'an du Seigneur 1327, le 6 avril, à l'église de Sainte-Claire d'Avignon, dans la matinée. Et dans cette même ville, et ce même mois, et ce même jour, et aussi dans la matinée, l'an du Seigneur 1348, elle fut ravie à la lumière. Son corps très chaste et très beau fut inhumé dans l'église des frères mineurs, des Cordeliers, le jour même de sa mort à Vêpres. » Si cette note ne suffit pas, le sonnet Voglia Misprona nous fournit les mêmes précisions pour la date, l'année et le jour. 1327 appunte sull'ora prima il 16 d'aprile. Et quant au lieu de la sépulture, l'église des Cordeliers à Avignon, il est désigné d'une façon suffisamment claire par ces vers de la 11e églogue. Prends ce chemin où tu verras des bœufs au cou lié par des cordes nouées, et des chiens nombreux qui veillent sur un seuil humble, et des molosses gris autour des barrières. Ce lieu enferme ce que tu as perdu, et regarde en face, c'est là que repose Galatée. La nature n'a rien fait de plus achevé sur la terre, si l'amitié ne se trompe pas. Dépose là ce qui t'accable, embrasse la pierre, lance des paroles à l'ombre muette. » Le commentaire très explicite qui est autour est de Benvenuto da Imola, correspondant de Pétrarque, donc personne très qualifiée pour connaître le sens de ces images. Galatée, c'est l'or. Les bœufs, ou couliers par des cordes à nœuds, ce sont les frères mineurs, les cordeliers. Le seuil humble, leur église. Et là, explique-t-il, se trouve le tombeau de Salore. Dans tout ce que nous venons de voir, il n'est pas encore stipulé que Laure ait été mère, ni surtout qu'elle ait eu 11 enfants. Mais cela va venir. Plus aucun doute ne sera possible quand on aura vu dans un passage du secret que le corps insigne de Laure fut épuisé par des maladies et par des couches fréquentes. Deux manuscrits qui sont à Paris portent Ptbus et un troisième en toutes lettres Partubus. C'est le 1765 de la Nationale. Si une tradition n'avait pas existé, suggérant ce mot difficile, car nous sommes encore loin des découvertes à léger coup de pouce du temps de François Ier, jamais le copiste n'aurait eu cette idée. Pour qu'il l'ait eue, il faut ou bien que des autographes sans abréviation aient été sous ses yeux et qu'il ait simplement copié, ou qu'il ait été au courant d'une tradition. De fait, celle-ci existait puisqu'un auteur florentin du XIVe siècle, Peruzzi, dit que, dans la jeunesse de Pétrarque, il y avait à Avignon, parmi les dames de la ville, une jeune femme nommée Laurette de la maison de Salso. Or, on sait à Avignon que les deux Sades, au XIIe siècle, s'appelaient indifféremment de Sade ou de Sadone ou de Saze ou de Sauze. Voudrait-on à toute force, mais je crois que personne ne veut cela, que Laure de Sade ne fût pas la Laure de Pétrarque, il faudrait en imaginer une autre qui également s'appela Laure, qui également eût été fatiguée par des couches fréquentes, qui également fut morte le 6 avril également de l'année 1348 et qui également eût été enterrée dans l'église de Cordelier, également à Avignon. Je ne vois pas l'utilité de ces dédoublements où on les pourrait faire pour chacun de nous et prouver que nous n'existons pas, que c'est quelqu'un d'autre qui existe à notre place et accomplit les moindres de nos actes. Qu'on m'excuse, si je suis obligé de me livrer à ce travail de termite, je voulais commencer sur ce sujet tout autrement. Pétrarque, sur le tard, fut ennuyé de savoir qu'il était célèbre surtout par cet amour. Ses vers, ses petits vers, comme il dit, « nougelas meas vulgares », il les détesta à ce point par la suite qu'à Pandolfo Malatesta, qu'il ait lui demandé avec insistance, il écrit de Padoue, le 4 janvier 1373, les doigts transis et en pleine guerre, des mains de ce messager, tu recevras mes mesquins écrits en langue vulgaire. C'est bien à contre-cœur, je dois te l'avouer, maintenant que je suis vieux, que je vois se divulguer ces inepties composées dans ma jeunesse, dont je voudrais plutôt qu'elles restassent ignorées, non seulement des autres, mais de moi-même. Cependant, ce qu'on dit est vrai. La boule est petite. Les temps historiques doivent être résumés. Il faut un grand amoureux, un seul. Pétrarque, à l'insu de son propre jugement sur lui-même, est tenu de jouer ce rôle. Et, il faut le dire, car les foules des temps ne se trompent pas, il y est merveilleusement apte. Parce qu'il ne fut pas voluptueux, il fut seulement formidablement amoureux. Il faut aller dans ses notes pour le savoir. C'est extraordinaire ces exclamations, plume en main, qu'il n'a pu retenir quand il s'est enfoncé avec délice dans une histoire de son temps, ou presque, qui est celle-là racontée par eux-mêmes et par lettres d'Abélard et d'Héloïse. Ce manuscrit existe encore, c'est le Parisianus de 1933. On y voit l'écriture de Pétrarque et, à des passages comme celui que je vais rapporter, c'est d'un effet prodigieux. Ce passage est le suivant, c'est le latin d'Héloïse, c'est la première réponse d'Héloïse à Abélard. Sur ton ordre, en effet, j'ai pris un autre cœur et un autre habit. Pour bien te faire voir que tu étais le maître unique de mon corps et de mon âme, jamais, Dieu le sait, je n'ai cherché en toi autre chose que toi-même. C'est pour toi, non pour ce que tu représentes, que si fort j'aimais. Je n'ai point consulté les avantages d'une union, ni le douer, ni mes plaisirs, mes volontés, c'est les tiennes, tu le sais bien, que je me suis appliqué toujours à satisfaire. C'est ici que se situe l'exclamation de Pétrarque. Ah, comme tu sais t'y prendre et que ton art est prodigieux, ô Héloïse. Comme contraste avec ses sursauts intimes et pour représenter le Pétrarque tel qu'il était dans ce qu'il voulait paraître, il convient de consulter son sentiment public. On le trouve dans ce dialogue, intitulé « D'agréables amours », qui occupe plus de pages que tout autre, et Dieu sait s'il y en a, les viviers, les oiseaux, le port sûr, la lutte, la peste, l'incendie, la femme parjure, le voyage fatigant, la pluie, la grêle, les puces, les pierres précieuses, les éléphants, les chameaux, les singes, l'éloquence, la vertu, les beaux vêtements, la ville ornée de fontaines, etc. Dans le De Remediis Utriusque Fortunae. Je me sers de la traduction manuscrite du 224 de la Nationale de Paris. J'aime avec grande joie. Celui qui ne se sent qui lui est mauvais est endormi, et celui qui a de mal s'éjouit, il affole. Bref, c'est à moi chose moult délectable que d'aimer. Mieux serois qu'il te sembla être chose moleste et odieuse, car tu serois plus prompte à éviter le mal et plus prochain de ton salut. Mais la plaisance nourrit la maladie, et celui qui prend délectation en sa maladie ne voudra pas être saint. Mon engin est adonné à aimer et me plaît. Chacun parle ainsi qu'il entend, et de ma part il me semble que aimer est chose servile et langoureuse, car il a été cause de détruire plusieurs grands hommes. Considère qu'il en advint Jules César, qui par sa puissance victorieuse avait vaincu et subjugué les Gaules, Germanie, Bretagne, Espagne, Italie, Thessale, Égypte, Arménie, Ponte et Afrique, et après tant de victoires, fut vaincu par l'amour de la Rouanne d'Alexandrie nommée Cléopâtre. Et Hannibal, qui eut victoire à Ticine, à Trébie, à Trasimène, à Cannes, et lequel ne peut être vaincu par armes en Italie, fut en un château dépouillé nommé Salapi, par Putri et Paillardi inexcusable vaincu. Or, pense donc quelle force à ce mal qui froisse par petits assauts, tel et si dur courage de poitrine si roide et forte, et qui lie par si faibles liens les pieds tant soudains et les bras si forts. Jamais ne verre jour que ne soit amoureux. Fais donc ainsi que tu l'entends et te joues et es joui en ton fol dormir, et quand tu seras éveillé, tu pleureras. Certes, je ne pleurerai point, mais chanterai et me consolerai au chant des amoureux. Entre toutes les autres folies de ce monde, celle des amants est la plus merveilleuse, car par coutume elle est tournée en nature, de laquelle l'erreur est inexcusable envers toutes gens, et spécialement envers les gens lettrés, et même entre les poètes, tant grecs que latins, lesquels ont écrit plusieurs choses des amours d'autrui et d'eux-mêmes, par lesquels écrit apparaît clairement que aucun d'iceux ont bien desservi notre infamie, combien qu'ils eussent acquis gloire de éloquence. Entre lesquels Sappho est la plus tolérable, car il dit que l'âge, le sexe et la légèreté de courage excusent la pucelle. Et combien que plusieurs autres poètes, tant grecs que latins, aient écrit plusieurs livres de vertu et bonne mœurs, toutefois le plus grand nombre est d'amour. Et en ce nom pas seulement errer les poètes, mais aucun philosophe stoïque, toutefois ils en ont écrit plus sagement, car il dit que tout sage doit aimer, en quoi ne sont pas de ceux en parlant de bon amour, car le sage doit aimer Dieu, il doit aimer son prochain, il doit aimer vertu, sapiense, son pays, ses parents, ses enfants, ses frères et ses amis. Et s'il est vrai sage, il aimera aussi ses ennemis, non pas pour vertu qu'il soit en eux, mais pour honneur de celui qui le commande. Or je te demande comment, en toutes les choses dessus, dictes, tu pourras fonder ton amour sur beauté corporelle. Sache qu'il n'advient guère que telle beauté corporelle profite, mais très souvent nuit, car de l'amour qui procède de telle beauté ne vient que luxure et ordure. En voilà assez pour ce genre de tristesse, voisine, plus que cela ne pourrait se dire, par une contention qui n'est qu'annonciatrice d'un contraire outrecuidant du sadisme dont l'inventeur n'est pas sans être, avec Pétrarque, d'un insistant lointain rapport. Puisque l'or, chanté par lui par 318 sonnets et 38 canzones, fut, comme nous l'avons dit, femme d'Hugues de Sade, syndic d'Apte en 1348, et que d'elle et de lui, pas de Pétrarque évidemment, naquirent 11 enfants. Paul, dit Paulan de Sade, Augier de Sade, à qui sa mère, probablement à cause de sa conduite dissipée, ne laissa qu'un florin, Audibert de Sade, Hermesinde de Sade, Hugues, dit Huguenin, pour le distinguer de son père, Marguerite de Sade, Jarsande ou Jarsenette de Sade, Pierre de Sade, Jacques de Sade, Joannet de Sade, Philippe de Sade, et que d'Huguenin, le cinquième, qui avait épousé Gérode de Lednon, et eut de ce mariage Jean et Elzéar, qui reçut en 1416 de l'empereur Sigismond l'aigle impérial que la maison de Sade a depuis toujours porté sur ses armes, Jean, ce Jean, eut pour fils un Gérard, qui eut pour fils Pierre, de qui, par le fait de son union avec Baptistème de Fourbin en 1493, naquit Joachim de Sade, lequel se noya le 13 septembre en essayant de traverser le Coulon, cours d'eau quelquefois brusquement enflé, pour aller à Aix. Non sans laisser, à vrai dire, un fils nommé Jean, qui en laissa un autre nommé Balthazar, et celui-là encore un autre nommé Jean-Baptiste, de qui est né Côme, et de celui-là Gaspard, et cela nous porte en 1670. De Gaspard, alors, s'en est Jean-Baptiste François-Joseph, dit le comte de Sade, Jean-Louis, commandeur de Malte, Jacques-François Paul Adlance, abbé d'Ébreuil, vicaire général des évêques de Toulouse et de Narbonne, auteur de « Remarques sur les premiers poètes français et les troubadours » et de trois remarquables volumes anonymes de mémoires sur Pétrarque, utilisés par nous souvent dans cet écrit. Que devrait-il y avoir ensuite? Rien, sinon que son frère, le diplomate si célèbre, Jean-Baptiste François, né à Avignon en 1701, mourut à Montreuil, près de Versailles, en 1769, laissant un fils qui n'est autre que le fameux marquis. On raconte sur lui toutes sortes de choses, qu'il voulut disséquer une femme vivante, etc. On a de lui Justine ou les malheurs de la vertu, 1791, puis Justine ou les prospérités du vice. C'est le contraire exactement, donc en psychanalyse, le contraire aussi de ce contraire, et ainsi de suite, des remèdes de l'une et de l'autre fortune de Pétrarque. Ayant cru discerner en Bonaparte un accueil, le marquis lui envoya le dernier de ses livres. Bonaparte le fit arrêter. À Charenton, quelques années avant sa mort, il avait une très belle figure, beaucoup de douceur et d'élégants cheveux blancs. Il écrivit pour le Théâtre des Fous de très jolies petites pièces. Le jour de sa mort, son logement fut envahi et ses manuscrits dispersés et brûlés par la police. Le sadisme n'est pas nouveau. Il y en eut à Avignon, au temps qui nous préoccupe, foyer occulte par nécessaire contraste, aussi de magie de toutes les perversions imaginables. À Naples, à ce que raconte Pétrarque, d'épouvantables subites tueries s'improvisaient dans les rues, sur les places. Ce sont des survivances indéracinables des combats de gladiateurs. Pétrarque a beau aimer les Romains, son cœur se soulève. Cela se passe en plein jour et vite le roi, la reine et beaucoup de grands personnages s'y rendent. Le sang humain coule comme quand on tue des porcs. Le peuple tend les narines. Sous les yeux des pères, on immole les fils. Se soustraire à ce carnage est infâme. Au contraire, s'y offrir est aussi méritant que de mourir pour la patrie ou pour une cause divine. Pétrarque voit cela et au milieu d'applaudissements et de clameurs qui montent jusqu'aux étoiles, un admirable jeune homme tombe percé d'un fer et rend l'âme à ses pieds. Le poète éprone son cheval et s'éloigne plein de dégoût pour Naples et son étrange société. En voilà assez sur cet argument, Pétrarque n'est lié aux deux Sades que par l'or. Mais c'est une adoption, si l'on y réfléchit, qu'a faite cette famille dans le cours des âges avec insistance. L'amour doit être récompensé quand il est de cette qualité, et surtout s'il contient de tels devenirs. Car c'est une extériorisation qui a maintenant une vie pour des siècles. Tout le monde, et sur le moindre rocher que trempe la mer, sait qu'un homme a été superlativement amoureux, et c'est Pétrarque. Et ce qu'il y a de mieux, c'est que c'est vrai. Il y eut chez lui, probablement à cause de cette contention que ne pouvait connaître l'Antiquité, ce potentiel en calories défiant l'histoire. Qu'appelle-t-on un homme simplement amoureux ? Rien d'analogue. Lui, il était d'une façon extraordinaire, incendiaire, solaire, sans le vouloir, simplement par position sur notre bonne boule. Un seul objet ne pouvait lui suffire, dont il ne faisait rien d'ailleurs, où il ne pouvait que faire se résumer le débordement de ses limites sur d'autres. Un homme qui véritablement aime sans limite, divise, grandit, multiplie. Positivement, il ne peut s'arrêter. C'est alors une foule qui l'environne, une chaude foule féminine, ovatrice, grisante. Jamais, et des documents que nous allons produire vont le montrer, Pétrarque ne fut davantage dans son élément, le sien propre, que quand il était environné de dames et de filles. Ni elle, tremblante perfection non plus, que quand cet homme, nécessaire à l'infusion du plus haut degré de leur charme, était au milieu d'elle. Le retracement, jamais produit jusqu'ici par d'autres, de cet étourdissant dédale a été imagé par lui dans un sonnet dont je me voudrais de sauter l'introduction très nécessaire, qui est encore de l'abbé de Sade. Un jour, Laure fit la partie avec une douzaine de ses amis d'aller se promener en bateau sur le Rhône. Comme la grande rapidité de ce fleuve le rend très difficile à remonter, ces dames avaient fait préparer pour le retour une espèce de chariot où elles montèrent. C'était la voiture en usage alors, on ne connaissait pas encore les carrosses et les chaises. Laure, assise à part, dans un coin de ce chariot, avec un air modeste qu'elle avait toujours, ravissait ses compagnes par les sons touchants de sa voix. On n'aura pas de peine à croire que Pétrarque, qui se trouvait ce jour-là par hasard à Avignon, alla jouir de ce spectacle. Il ne put voir et entendre chanter Laure sans ressentir l'émotion la plus vive, sa verve s'échauffa et mit au jour le sonnet 188. Tassoni, d'accord avec la plupart des commentateurs de Pétrarque, prétend que les douze dames dont il est question dans ce sonnet étaient précisément celles qui composaient la cour d'amour dont parlent les deux Nostradamus d'après Hugues de Saint-Césaire et le moine des îles d'Or. Mais cela mérite une discussion particulière. Tassoni donne leur nom avec la plus grande confiance. Les voici. Briande d'Agou, comtesse de Lune. Huguette de Fort-Calquier. Amable de Villeneuve, dame de Vence. Béatrice d'Agou, dame de Sceaux. Isoard de Roquefeuille, dame d'Ansouy, Anne, vicomtesse de Taillard, Blanche de Flassans, Douce de Moutier, dame de Clumont, Antoinette de Cadenet, dame de Lambèze, Magdeleine de Salon, Rixande de Puyvert, dame de Traves, Fanette de Sade, tante de Laure, dame de Romanin. Bien que, à vrai dire, il y ait des temps plus jeunes et aussi jolis que leur nièce, je ne pense pas que Laure ait eu l'idée de s'encombrer de la sienne, ni que les dames en question aient été celles-ci. De grands noms ne signifient rien sur le divan de l'amour. La dernière fille de Catin de la plus basse ruelle, disons de rouquine aux cheveux forts et aux pâles yeux comme l'eau où filent les vidures de brochets vers les sols, est quelquefois la plus exquise déesse de la terre et des tapis des ciels où s'ébroue, chevauchée par Archénu, Onagre et Anne à celle d'or. Il se peut que Tassoni se soit trompé. Ce qui est exact, c'est que ce sonnet eut pour motif le Rhône et le tableau extraordinaire de cette rentrée de tant de suaves dames en char. C'est donc le sonnet 188. Je veux essayer de le rendre ainsi. 12 dames, je vis honnêtement mêlées, et tout comme dire 12 astres, au mi-temps le ciel, en une barquette allègre et seule, telle que jamais jusqu'ici ne s'est vue. Dans semblable navire, point Jason ne s'en fut, vers toison que tout homme désire, ni le berger dont trois encore gémit, cause l'un et l'autre d'un tel bruit. Puis les revit ensuite dans grand char de triomphe, l'or mienne, céleste et simple, assise à l'écart et chantant suavement, telle vision d'humain, ni rien n'a de mortel, heureux fûtes-vous alors, Automédon, Typhis, qui conduisit à terme cet éthéré cortège. Il y a autre chose dans ce genre, et d'aussi bien extraordinaire, dont l'or n'est cependant plus l'objet. Il y a cette lettre de Pétrarque au mélancolique Lélio de Ley, qui fut, avec le néerlandais Louis, c'était Avignon qui faisait cet internationalisme, un grand ami du poète. Ce dernier raconte comment, étant allé voir son frère Gérard, chartreux de Montrieux, il croise en route une grande multitude de nobles jeunes dames romaines avec qui, s'étant arrêté et causant familièrement, il apprend certains détails qu'il désirait connaître sur le tumulte de Rome, événement survenu en février 1353, et qui avait eu pour cause la raréfaction et une hausse arbitraire du blé. Il sait ainsi que le jeune Stefano Colonna a pu, en se sauvant, échapper à la fureur de la foule, tandis que, au contraire, Bertaldo Orsini a été lapidé. Tous deux étaient députés par le peuple au gouvernement de la ville. Cette lettre est surtout émouvante par le tableau qu'elle évoque, et aussi comme document d'une époque où le journal s'apprenait sur la route. Donc, le 19 avril 1353, entre Aix et l'église de Saint-Maximin, je me trouvais sur la route pour aller voir ce frère qui est mien, et qui aussi est tien, et le nôtre à tous, puisqu'il est, comme il dit, le serviteur du Christ. Lorsque, au milieu du chemin dans le sens opposé, je vis venir une grande cohorte de matrones romaines. Encore de loin, rien qu'à les voir s'avancer si noblement, j'étais au fait de leurs conditions, de leur patrie. Néanmoins, je pouvais me tromper, aussi je pensais d'abord à leur demander qui elles étaient. Bientôt, elles furent près de moi, et je les entendais parler, aucun doute n'était possible. Je prends alors la contenance de celui qui ne sait rien, et usant des paroles de Virgile, je les interroge en latin vulgaire en ces termes. « Qui êtes-vous? D'où venez-vous ?» Dès qu'elles reconnaissent un son italien, joyeusement, elles se font attentives. L'une d'elles, la plus qualifiée par l'âge, prend la parole. « Nous sommes, dit-elle, romaines, et de Rome partis. Nous allons ainsi vers les Espagnes, voir le sanctuaire de Monseigneur Géac, Saint-Jacques de Compostelle. Et toi, peut-être aussi, es-tu romain? Et tu t'en retournes à Rome ?»« Certes, lui dis-je, romain je suis de cœur, mais point ne vais-je en ce moment à Rome. » Aussitôt, les voilà toutes qui m'entourent et qui, avec une familiarité charmante, se mettent à me raconter des tas de choses. Je m'informe d'abord des événements. Ce qu'elles répondent ne peut que mélanger en moi la joie et la tristesse. Ensuite, on parle des gens. Et tu penses, je n'ai rien de plus à cœur que m'informer de toi. J'apprends que tu vas bien, que tu es marié honorablement et heureusement, que tu es gratifié d'une belle progéniture. Tout cela, tu penses, je le savais. Eh bien, je l'écoutais, et aussi attentivement que si je l'eusse entendu pour la première fois. Et avec une telle joie, à vrai dire, que je te voyais toi, ta femme, ton fils, comme si devant moi, vous eussiez été présents. Et elles ajoutaient des détails sur les dangers qui t'avaient menacé. Tout cela, bien que passé, faisait se figer le sang dans mes veines. Mais grâce à Dieu, c'est loin. M'informant alors de notre jouvenceau, le jeune Stefanel Colonna, j'appris à quel danger il avait échappé, tandis que son collègue, le comte Berthaud, livré à la populace, avait été lapidé. Accoururent alors à mes lèvres ces vers de Lucain, « Ainsi, de votre sang, à Rome, vous payez, ô grand, le fiel de votre insolence, et de la guerre civile, votre mort est le fruit. » Et ces paroles, à ce cas si bien appliqué de Salomon, « Celui qui cache le blé est maudit entre les peuples. Enfin, ce malheureux ne connaissait pas le mot de César. Celui qui tient le grain à bas prix est aimé du peuple, ni cet autre. Le peuple se révolte s'il est dans la disette. » Là-dessus, je leur demandais si elles voulaient bien accepter que je fisse quelque chose pour elles. J'avais cette intention, et pour Dieu, et pour la patrie, et pour toi, si jamais elles avaient eu besoin de quoi que ce fût, d'y subvenir selon mes moyens. L'argent que j'avais emporté pour le voyage, je l'eusse volontiers partagé avec elles. Jamais tu n'imagineras ce qu'elles répondirent. Qu'elles n'avaient besoin de rien sinon de mes prières, afin que le Christ leur accordât un heureux retour dans leur patrie, et après, au terme final, un accès à la cité céleste, que pour le reste, elles étaient pourvues de tout. J'essayais encore de les convaincre, Tant était grand mon désir de le voir accepter quelque chose, ce fut en pure perte. Que penses-tu, toi, de tout cela? Car vraiment, tel que je le décris, c'est bien là le merveilleux naturel des femmes romaines. Dieu sait si je m'en réjouissais en dedans de moi-même, tout en pensant au naturel bien divers, sous ce rapport des femmes de pas mal d'autres pays, lesquelles non seulement ne se font aucun scrupule d'accepter des cadeaux, mais qui exigent ceux qu'on ne leur offre pas. Triste vérité sur laquelle il faut bien se garder de placer des noms. Mais je ne veux pas te retenir avec cette lettre aussi longtemps que j'ai retenu sur la route ces dames, juste à vrai dire de 3 heures qu'il était, à partir du lever du soleil, donc 9 heures, fait durer ce plaisir jusqu'au soir, si je n'eusse craint d'être l'empêchement chez elle d'une si chaude hâte sacrée. Donc on part et on se dit adieu. Brusquement, je me rends compte de l'endroit où je suis. Pendant tout le temps que j'étais avec elle, je n'avais pas discontinué de me représenter que j'étais à Rome. M'entretenant avec Cecilia Metella, avec Sulpiti de Fulvius, avec Cornélie de Gracchus, avec Marty de Caton et avec Émilie de Scipion l'Africain et toutes ces héroïnes fameuses qui furent la gloire de l'ancienne Rome. Ou, pour parler d'une manière plus convenable à notre religion et au siècle de notre ère, je croyais voir ces vierges saintes qui jouent un si grand rôle dans nos annales chrétiennes, Prisque, Praxède, Prudentiane, Cécile, Agnès. Parti de là, le jour suivant, je vis mon frère. Il y avait 5 ans que nous ne nous étions revus. On se mit à parler tant et plus et sans arrêt, mais surtout de toi, notre Lélius, nous demandant ce que tu faisais, où tu étais, ce que tu pensais. Je n'ai pas besoin de te représenter la force des sentiments dont je suis de sa part auprès de toi l'interprète. Fontaine de Sorgue, le 24 avril. S'enivrer de filles, de femmes et de l'haleine givrée par la neige de cime de leurs dents de ces femmes et de ces filles, rousses, blondes, cendrées, noires, noires rousses, noires blondes, noires cendrées, noires vertes, noires bleues, noires éperdues, telle est à 9h du matin sur la route dans l'univers entre Aix et Saint-Maximin, c'est l'univers, la nature de cet amour qui justement rend Pétrarque célèbre sur les plateformes des mondes. Oui, devant le Niagara, on sait vous dire que Pétrarque fut amoureux. À Schwenningen aussi, à Bâle sur ce pont où exactement au milieu une partie du carnaval tue l'autre, ou sur la tour penchée, au Spitzberg, au Cap, au sommet des pyramides, partout, tandis que dans des voyages et dans des stations pour un panorama mérité, l'on vous vend des mamelles séchées ou des porte-plumes en pattes de chamois contenant une magie, ou des opales ou des baromètres ou des fleurs sèches ou des cristaux, cette renommée lui rend justice. C'est le plus formidable amoureux européen et trans-européen depuis les temps de la Louve jusqu'à cela très actuel et féru de clavecin et d'authenticité du chien-loup blanc polaire. Il y avait déjà des Américains ou leur équivalent en Naples à cette époque. On se donnait rendez-vous pour aller voir à Pouzol une jeune fille étonnante qui se tenait sur le seuil d'une église, prête à causer ou à jouter avec quiconque se mesurait avec elle. Zingria, Pétrarque.